Cap Nature.
Cap Nature Sandrine, bonjour.
Oui, bonjour madame. Je vous appelle, je voudrais juste savoir si vous avez été dévalisée ou s'il y a encore des choses en rayon.
Alors, on a été dévalisée.
Je sais que certains d'entre nous ont des doutes sur ce que nous allons faire. Nous ne serions pas des hommes si nous n'en avions pas. Mais le sort de notre pays, peut-être du monde, est entre nos mains. Nous ne pouvons pas. Nous n'osons pas refuser ce fardeau. Je suis convaincu que chacun d'entre vous fera son devoir.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission quotidienne en attendant que le monde change. Moi c'est Philippe et je co-anime en alternance cette émission avec Jean-Pierre. Malgré le confinement, Radio Campus Tour reste actif en vous proposant des programmes faits maison pour vous aider à passer un confinement plus agréable et en essayant de vous divertir autant que possible. Alors au programme aujourd'hui des chroniques préparées à domicile par les animateurs de Radio Campus Tour, les informations et des présentations de films. On va commencer par Sophie et les étudiants de l'école de journalisme de Tours qui vont vous présenter les informations autres que le Covid-19. Et nous, on se retrouve juste après. Restez confinés, on s'occupe de tout sur Radio Campus Tours.
Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus.
Coronavirus.
Covid-19.
C'est du virus.
Le Covid-19 qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes.
Comment la pandémie a pu toucher plus de 200 000 personnes.
Pour survivre plusieurs heures en dehors du corps
retarder
humain.
Retarder la propagation du virus.
Toujours pour éviter la propagation du virus.
De l'épidémie.
Cette épidémie est la plus grave crise sanitaire qu'ait connue la France depuis un siècle.
Bonjour à tous, auditeurs bientôt déconfinés de France. Nous sommes le dimanche 3 mai 2020, bienvenue dans l'émission « À part le corona, il se passe quoi ?» Le flash info fait maison qui parle de tout, sauf du virus à couronne qui nous empoisonne. Après une semaine d'absence, voici vos irréductibles journalistes de retour pour une info garantie sans corona. Car oui, même si le Covid-19 a envahi le monde et l'ensemble des médias, une actualité résiste encore et toujours au virus. Ce flash info est réalisé à distance par Sophie, Lucas, Solène et Caroline, journalistes confinés et étudiants à l'EPJT, l'école publique de journalisme de Tours. C'est parti pour un petit tour d'actualité en bonne santé.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir.
Les grands titres du journal.
On commence avec l'actualité en France présentée par Lucas.
Catastrophe écologique dans le département du Nord. La sucrerie Tereos de Tain-Saint-Martin serait à l'origine de la pollution du fleuve Lescot, situé 70 km en aval. La rupture d'une digue exploitée par l'enseigne aurait provoqué cette catastrophe. La Belgique est également touchée. Un légionnaire français de l'opération Barkhane est mort des suites de ses blessures, a annoncé l'Élysée samedi. Le 23 avril, le brigadier Dmitro Martiniuk est blessé par un engin explosif lors d'une opération contre des groupes armés terroristes au Mali. Depuis le début de l'intervention française au Sahel en 2013, 43 militaires français sont décédés. L'homme qui a foncé sur les deux motards de la police nationale a été écroué vendredi 1er mai. Le Français de 29 ans ayant prêté allégeance au groupe État islamique assume totalement son acte. Les deux principales sociétés de Bernard Tapie ont été placées en liquidation judiciaire jeudi 30 avril. En d'autres termes, les holdings, groupe Bernard Tapie et financière et mobilière Tapie sont vendus pour permettre à ses créanciers de retrouver pas moins de 550 millions d'euros.
Et maintenant, allons faire un tour du côté de l'international avec Sophie.
L'histoire a un petit goût de vengeance. Le ministre de la Justice du Brésil, qui a démissionné le vendredi 24 avril, accuse le président d'extrême droite Jair Bolsonaro d'ingérence dans des affaires judiciaires. Une enquête a été lancée par le tribunal suprême, menaçant ainsi le président de destitution. Toujours de l'autre côté de l'Atlantique, Joe Biden, candidat à la présidentielle américaine, est accusé de viol par une ancienne assistante. Les faits remonteraient à 1993, le candidat dément, assurant, je cite, que ça n'est jamais arrivé. De son côté, le Canada a pris une décision historique. Son premier ministre, Justin Trudeau, a annoncé la fermeture du marché des armes d'assaut. Une amnistie de 2 ans a été accordée aux propriétaires de ces armes avant que cela devienne illégal. Changement de continent. Kim Jong-un n'est pas mort. Le dirigeant de Corée du Nord n'avait pas fait de réapparition publique depuis 3 semaines. La venue de médecins à son chevet avait attisé les rumeurs, mais hier, samedi 2 mai, c'est bien Kim Jong-un qui a inauguré l'ouverture d'une usine d'engrais, et ce, à grand renfort de caméras. Enfin, un conseil lecture pour clôturer cette actualité internationale. Dans son blog « Un si proche Orient », hébergé par lemonde.fr, l'historien Jean-Pierre Filgu publie un article d'actualité sur les règlements de compte en cours dans la famille Assad à la tête de la Syrie. Les deux principaux protagonistes, Bachar el-Assad au pouvoir et son cousin Rami Malklouf, l'homme le plus riche du pays. Le tout sur fond de politiques anticorruption fumeuses, de tableaux très chers et de révélations russes. Bonne lecture.
On finit par loisirs et culture.
L'égalité salariale dans le foot, c'est pas pour tout de suite. Les joueuses de l'équipe de football américaine ont vu leur demande d'égalité de salaire rejetée par un juge fédéral. « Nous ne cesserons jamais de se battre pour l'égalité », a tweeté Megan Rapinoe, capitaine de l'équipe nationale, championne du monde et ballon d'or. Le média urbain en ligne Street Press détonne. Le 30 avril, une vidéo est publiée par le site dans laquelle des rappeurs français parlent de leur expérience avec le contrôle au faciès. 10 jours plus tôt, dans une plus longue vidéo, les mêmes invités se livraient sur leur relation avec la police. Racisme et bavure policière garantis. Et si l'un des plus célèbres duos de musiciens des années 2000 faisait son grand retour cette année ? 7 ans après Random Access Memories et une décennie après Tron Legacy, les Daft Punk pourraient signer la BO d'un film de Dario Argento. C'est ce que ce dernier a laissé entendre dans une interview. Pour l'heure, rien de sûr et aucune signature.
Détendez-vous, c'est assez pour aujourd'hui.
C'est l'heure de la
culture.
Non, parti !
Bienvenue dans la pause culture. Chaque dimanche, 2 étudiants choisissent un coup de cœur culturel à partager. Documentaire, série, livre ou musique. Aujourd'hui, c'est Solène et Caroline qui vous présentent leurs trouvailles.
Aujourd'hui dans la pause culture, je vais vous parler de Sailing la Vagabonde, une chaîne YouTube qui va vraiment, vraiment vous faire voyager et vous déconnecter de la sale ambiance parfois causée par le virus dont on ne doit pas prononcer le nom. Sailing la Vagabonde, ça veut dire naviguer la vagabonde, et la vagabonde, bah c'est un bateau.
I'm Elena, and this is Raleigh, and this is our home, La Vagabonde. We've been sailing around the world for the last 5 years, and have recently found ourselves with a stowaway.
Cette chaîne, c'est celle de Riley et Elena, deux Australiens qui ont décidé, il y a de ça 5 ans, de commencer à naviguer autour du monde sans savoir à l'époque comment faire. Et 5 ans plus tard, c'est devenu leur mode de vie et ils sont devenus des marins sacrément doués, ont eu un enfant, Lenny, avec lequel ils vivent sur leur bateau et sont passés d'un petit voilier à un super catamaran. Toutes les semaines, ils publient une vidéo de leur périple sur leur chaîne et c'est assez incroyable. On les suit dans leurs galères, il y en a beaucoup quand on vit en mer, des tempêtes au matériel qui se casse, en passant par les pirates, mais aussi dans les traversées les plus magiques sur des îles désertes à la découverte de pays par leur littoral. Aujourd'hui, chaîne YouTube bien installée avec plus de 350 vidéos et 1 million de personnes qui les suivent, on aime toujours autant se plonger dans ce mode de vie pas comme les autres. Et même si cette chaîne est en anglais et que l'accent australien, bah c'est pas toujours évident, ne vous découragez pas car de nombreuses vidéos sont sous-titrées et les images suffisent parfois à elles seules.
Subscribe and welcome aboard.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un documentaire qui vous dégoûterait de manger McDo pendant un moment, ou du moins qui vous inciterait à ne pas y retourner. Il s'agit du film Super Size Me de Morgan Spurlock, sorti en 2004. Pendant 30 jours, cet acteur-réalisateur a mangé des produits McDonald's matin, midi et soir pour comprendre les effets de la malbouffe sur son corps, et le résultat est effrayant.
J'ai pris 11 kilos, mon foie est devenu gros et mon cholestérol a grimpé de 0,65 g par litre. Ma graisse corporelle est passée de 11% à 18%. J'ai doublé les risques de maladies coronariennes. Je suis 2 fois plus menacée par la crise cardiaque. Je me suis sentie déprimée et épuisée.
Rassurez-vous, si vous regardez ce documentaire, vous ne passerez pas 1h30 à voir quelqu'un manger McDo. Morgan Spurlock raconte les effets de la nourriture sur son corps et se fait suivre par des médecins régulièrement. Il interroge des experts à travers les États-Unis et en profite pour questionner l'importance des lobbies agroalimentaires. Tout ça sur fond de bonne musique américaine. Supersize the American way. Getting fat, getting broke, either way you're gonna pay. Supersize me. Supersize me. Le nom du documentaire Supersize Me se réfère au menu Supersize, qui est la version géante des menus McDo. Le documentaire a reçu le prix du meilleur film au festival Sundance 2004. 6 semaines après sa diffusion, McDonald's a retiré le format Supersize de la vente. Même si le film date un peu et qu'il se concentre sur les États-Unis, il interroge sur la malbouffe et sur ses effets sur la santé. 16 ans plus tard, l'obésité est toujours un fléau dans le monde. Sur ce même sujet, je vous recommande le documentaire d'Arte, Un monde obèse, sorti en avril 2020. Bon visionnage à vous. À part le corona, il se passe quoi ? C'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés, continuez de prendre soin de vous et de vos proches. On se retrouve jeudi pour une prochaine émission. D'ici là, vous pouvez nous écouter sur Radio Prune et Radio Campus Tours, ou en replay sur SoundCloud. Vous pouvez aussi suivre notre compte Twitter, À part le corona.
Voici quelques messages. Écoutez Radio Campus en restant chez vous. Je répète, écoutez Radio Campus en restant chez vous.
On est de retour sur Radio Campus Tours 99.5 FM. Je vous rappelle que cette émission vous est proposée du lundi au vendredi de 11h30 à midi et de 16h30 à 17h, et ce pour toute la durée du confinement. On va passer la main à Solène et à Charles qui vont vous présenter des super films. Faites-leur confiance, ils savent de quoi ils parlent.
Aujourd'hui, on continue notre série autour des cinéastes spirituels de la nouvelle vague française. Et aujourd'hui, on va parler de Jean-Pierre Melville à travers son premier long métrage, Le silence de la mer. Alors Jean-Pierre Melville, il est né en 1917 de son vrai nom Jean-Pierre Grumbach. Il se passionne assez tôt pour le cinéma, hein, ce sera même pour lui un refuge. Il va se retrouver mobilisé pour la Deuxième Guerre mondiale. Il va rentrer dans la résistance, à Londres notamment. Il va prendre le nom de Melville, en hommage à Herman Melville, l'auteur de Moby Dick. Alors après la guerre, il va devenir son propre producteur, parce qu'il veut faire du cinéma, mais certainement pas collé à l'État. Il n'obtient d'ailleurs pas sa carte de metteur en scène, qui pourrait lui permettre de faire du cinéma avec des moyens supplémentaires. Non, il va tout faire tout seul. Il ne veut pas se syndiquer non plus. Vraiment assez pugnace, il va signer un court-métrage, 24 heures de la vie d'un clown, et ensuite on est en 1946, et il souhaite adapter Le silence de la mer d'après un texte écrit en 1941 par Vercors, qu'il a écrit d'ailleurs sous pseudonyme. Il va soumettre ce projet d'adaptation à Vercors, parce qu'il n'a pas obtenu, notamment il n'a pas acquis les droits en fait, par le CNC notamment. Vercors et lui vont passer un accord. Vercors est d'accord pour que Melville adapte le livre, à une condition en fait. Si un collège de résistants trouve le film malhonnête, contraire à ce qu'ils ont vécu, le film ne sortira pas. Il y a une lourde charge en fait qui pèse sur les épaules de Melville, mais qui va lui permettre sûrement de pouvoir réaliser aussi ce film-là, avec ce stress supplémentaire évidemment. Le film se fait pour un montant de 60 000 francs, donc très très peu. L'équipe est réduite au minimum, il va aller à l'essentiel, et c'est de cette capacité à s'adapter en toutes circonstances qui le verra d'être désigné père spirituel de la nouvelle vague française. À savoir des séquences extérieures tournées sans autorisation, les adaptations littéraires, il va y avoir une équipe réduite, comme je l'ai dit, au minimum. Très peu de finances au final, il va y avoir des risques encourus aussi par l'équipe tout au long du tournage, un tournage qui a duré longtemps parce qu'il y a eu peu de finances, l'équipe a été tournante pour le coup. Alors il a fallu inventer, trouver des bottes miraculeuses pour chercher la solution. Et il va se dessiner en fait dans ce film-là une mise en scène à la fois faite de mystère, une narration menée de voix off et de monologue. Alors venons-en quand même un peu à l'histoire. L'histoire du silence de la mer est fidèle au roman. De toute façon, hein, je le rappelle, il n'aurait pas été fidèle, le film aurait été détruit en fait, n'aurait jamais existé. Nous sommes dans la France occupée, en pleine Seconde Guerre mondiale, en zone libre. Un oncle habite avec sa nièce et un officier allemand va être envoyé dans leur demeure. On va voir la cohabitation forcée, le mutisme des hôtes. Cet officier allemand va essayer de discuter, de rentrer en contact avec eux, et il va faire face à un mur, à un silence toujours. Le film est aussi sur la rédemption, la résistance, ne plus accepter l'inacceptable, et puis que le pardon ne pourra sûrement pas être là. Il y a seul le silence est faisable face à l'oppression nazie. Il n'y a que ça de possible. L'amour entre la nièce et l'officier ne pourra même pas avoir lieu, quand bien même ils seraient amoureux. C'est impossible vu les circonstances. Et puis, va y avoir aussi, de la part de cet officier, la découverte de la face cachée d'un modèle. Ça veut à soi-même qu'on a mal jugé, vouloir reprendre tout à zéro, comprendre que derrière aussi ce costume d'officier, bah, y avait un homme qui doutait, qui avait compris qu'il avait participé à l'horreur du nazisme. Mais la force du film aussi, et c'est de ça dont s'inspiraient aussi les jeunes de la Nouvelle Vague, c'est sa mise en scène. Il y a très peu de dialogue, tout se passe par les regards, les gestes, la lumière du film est assez belle, insiste sur le caractère des personnages. Par exemple, vous verrez, quand l'officier arrive dans la maison, on a une lumière vraiment rasante, un peu, on dirait que Frankenstein arrive en fait dans la demeure, comme si le monstre rentrait. Il y a très peu de mouvements de caméra dans le film, c'est un film d'atmosphère, je trouve, où hormis la voix off, la musique apporte un côté assez poétique. Peut-être un peu redondant à certains moments, et vraiment le genre de film à voir au cinéma pour être 100% dedans. Mais le premier long métrage, je trouve, de Melville impose un style, une écriture minimaliste. On retrouvera sa patte dans toute sa filmographie sur les 13 longs métrages qu'il a réalisés. Dans ce film-là, on est en décor naturel, on a une certaine épure du cinéma, et dans ce sens-là, ça peut le rapprocher de Robert Bresson, qu'ils étaient tous les deux contemporains, et il y a un trait commun. Alors, avec ce film, les jeunes des cahiers du cinéma qui l'ont vu, ils ont perçu une porte d'entrée pour le cinéma. Parce qu'il était donc possible de faire des films sans moyens ou presque, avec juste une envie folle de faire du cinéma. C'était donc faisable tout ça. C'est un film aussi qui va nouer de sacrés liens avec toute son équipe. Il va faire retravailler son chef opérateur de Caé sur d'autres films, 6 autres films, ils vont collaborer. Pour les acteurs, pareil, ils retourneront tous avec Melville. Howard Vernon, qui fait l'officier Von Embrenack, jouera dans Bob le Flambeur, notamment quelques années plus tard. Jean-Marie Roubin, qui fait Long, travaillera aussi sur Les Enfants Terribles et L'Armée des Ombres. La nièce est jouée par Nicole Stéphane, qui tournera pour Les Enfants Terribles, et puis après, plus tard, dans son métier, elle se tournera vers la production. Mais ce film va marquer plein de cinéphiles. Melville sera repéré par Cocteau grâce à ce film, il fera un remake des Enfants Terribles en 1950. Et puis, avec 13 longs métrages à son actif, il va devenir aussi un maître du film noir. Aujourd'hui, nombre de réalisateurs se réclament de lui, Jarmusch, Tarantino, pour ne citer que. Voilà, aux États-Unis, c'est vraiment quelqu'un qui compte quand on parle de cinéma français, que ce soit le Doulos, Bob le Flambeur, et puis évidemment l'Armée des Ombres, son chef-d'œuvre, qui le feront à jamais rentrer dans l'histoire du cinéma. Il a fait tourner, c'était un peu un alter ego pour lui, Alain Delon. Il a fait tourner aussi Belmondo dans des rôles à contre-emploi, comme un prêtre d'ailleurs dans Léon Morin prêtre. Si vous voulez voir Le Silence de la Mer, il est disponible en DVD, en Blu-ray, et puis sur les plateformes de VOD en ce moment. La semaine prochaine, dans notre série sur la pré-nouvelle vague, on ira du côté d'une femme, cette fois-ci, qu'on a déjà parlé à l'antenne, qui s'appelle Agnès Varda, pour parler de La Pointe Courte.
Pourquoi aimais-je tant cette pièce ? Elle n'est pas si belle. Oh, pardonnez-moi, je veux dire, ce n'est pas une pièce de musée. Vos meubles n'en diraient pas « voici des merveilles », non. Mais cette pièce a une âme. Toute cette maison a une âme.
Je vous l'avais promis la semaine dernière, aujourd'hui, on sort. On va faire un tour en bagnole avec Christine. Au volant, c'est John Carpenter. Attachez votre ceinture. Nous sommes à la fin des années 70. Arnie Cunningham, un adolescent considéré comme un loser par ses camarades de classe, tombe sous le charme d'une Plymouth Fury de 1958, en très mauvais état, baptisée Christine. Contre l'avis de son ami Denis, Arnie achète la voiture et la remet en état. Il commence alors à changer de personnalité, devenant plus sûr de lui, allant même jusqu'à inviter la plus jolie fille du lycée, Late. Christine, qui se révèle animée d'une vie propre et de pouvoirs surnaturels, réagi de manière négative à la présence de sa petite amie. Elle sera même violente envers les lycéens qui harcèlent Arnie, les tuant un par un. Christine est une adaptation du roman homonyme de Stephen King. Richard Kobritz vient de produire Les Vampires de Salem, une mini-série réalisée par Toby Hooper, d'après un roman de Stephen King, très apprécié par ce dernier. Richard Kobritz se voit remettre par Stephen King lui-même le script de Christine, qui n'a pas encore été publié. Kobritz choisit alors John Carpenter pour faire le film, qui a réalisé un an plus tôt The Thing. Nous sommes en 1983, le livre sort en librairie et devient rapidement numéro 1 des ventes, et le sera toujours quand le film sortira en salle un peu plus tard dans l'année.
Name's George Lubin.
Arnie Cunningham. What are you asking?
Start her up.
Really?
Her name's Christine.
I like that.
Au casting, Keith Gordon dans le rôle d'Arnie, John Stockwell qui joue Denis et Alexandra Paul dans le rôle de Leg, la petite amie d'Arnie. Un casting d'inconnus comme le souhaite Carpenter. Kevin Bacon était envisagé pour le rôle d'Arnie, mais celui-ci préfère tourner dans Footloose. Harry Dean Stanton a également un petit rôle dans le film. Dans le rôle de Christine, une Plymouth Fury de 1958, choisie par Stephen King car elle n'était pas très populaire à l'époque. La production en trouve environ 25 exemplaires et les rénove. 17 seront entièrement fonctionnelles, quasiment toutes seront détruites lors des cascades, et seulement 2 survivront au tournage. Christine est une vraie bagnole au design magnifique comme on savait le faire à l'époque, rien à voir avec toutes ces merdes affreuses qu'on trouve aujourd'hui. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Parlez-en à Christine.
Hey Cunningham! Is that you, Cunningham? Hey, you ain't mad, are you?
Christine est un film absolument génial, qui n'a pas pris une seule ride avec les années. La réalisation, la mise en scène, le jeu des acteurs, tout est très bien maîtrisé. Dans les scènes, Christine se répare toute seule, les effets spéciaux sont tellement impressionnants, on imagine mal comment on aurait pu mieux faire aujourd'hui. Comme toujours, John Carpenter compose lui-même la musique, accompagnée cette fois par une excellente playlist de rock des années 50, dont Christine se sert pour communiquer. Christine est disponible en Blu-ray aux éditions Carlotta, en version restaurée, plein de bonus très intéressants. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre film de John Carpenter. D'ici là, fermez vos fenêtres. Je vois un étrange brouillard approcher.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour En attendant que le monde change, même heure et même place avec Jean-Pierre. On va se quitter en musique avec Huey Lewis and the News et leur célèbre titre The Power of Love. et avec les règles à respecter durant le confinement. Je vous dis à mercredi, d'ici là, prenez soin de vous, continuez à respecter le confinement, et écoutez Radio Campus Tour 99.5 FM. C'était Philippe au micro, salut à toutes et à tous.
Information coronavirus. Comment lutter contre le coronavirus? Quand nous parlons ou quand nous toussons, nous pouvons transmettre le virus par de petits postillons. Quand on pose sa main sur une surface contaminée et ensuite sur son visage que l'on touche des centaines de fois par jour, le virus peut nous infecter en passant par la bouche, le nez ou les yeux. En sortant, une personne, même si elle ne semble pas malade, peut contaminer 3 personnes en moyenne, qui à leur tour en contaminent 3 autres. L'épidémie se propage alors à toute vitesse. Mais en nous lavant les mains très souvent, en toussant dans notre coude ou dans un mouchoir jetable, en respectant une distance d'au moins 1 mètre avec les autres, en restant confinés chez soi et en limitant nos sorties à nos besoins essentiels, nous évitons la propagation du virus pour nous et pour les autres. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus. Plus d'informations au 0800 130 000 ou sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.